Alors bonsoir, ravie de vous retrouver après une année d'absence, mais vous avez pu profiter intensément de Gaël Jean-Marc pendant cette année. Alors on a aujourd'hui un cycle et une séance un peu spéciale parce qu'elle allie, et c'est le début à la fois d'un cycle sur l'histoire de la gastronomie et d'un cycle en philosophie sur les passions. Alors, il peut sembler étrange de mêler la philosophie et la gastronomie. Alors, je vais vous expliquer, pour moi, ça allait de soi que les deux choses allaient ensemble à cause de deux auteurs qui racontent les liens à leur avis. Le premier, c'est un écrivain, c'est Marcel Pagnol, qui, dans un de ses romans, L'homme de paille, il a donc choisi, il y a un homme de paille qui est censé ne pas diriger la société, mais donner son nom, et le personnage principal, qui tire les ficelles, demande à sa compagne d'occuper cet homme de paille pendant que lui, réellement, il fait les choses. Et évidemment, à partir d'un certain moment, le fameux homme de paille se met à s'intéresser à la société, à commencer à la diriger. Et celui qui l'avait mis là pour qu'il ne fasse rien, reproche à sa compagne et lui dit « c'est de ta faute ». Et elle dit « mais je n'ai rien fait, je l'ai juste occupé ». Et il lui dit « non, tu lui as appris à manger ». Comme si le fait de pouvoir manger modifier fondamentalement cette relation au monde. Et ce roman que j'ai lu adolescente m'a énormément frappée à ce niveau-là pour voir, mais tiens, quel était le lien entre justement la nourriture et le rapport au monde. Et puis plus tard, j'ai trouvé un peu la même chose chez le philosophe roumain Cioran. Il arrive en France et il s'est installé dans une petite pension de famille à Paris et il descend le premier jour et il voit que les personnes chez qui il est parlent de la nourriture, de ce qu'ils vont préparer et ils ne font pas qu'en parler, ils se disputent un peu, chacun défend son point de vue. Il se dit, il doit avoir une fête spéciale aujourd'hui. Et puis le lendemain, ça se passe de la même manière. Le troisième jour aussi. Et puis, il finit par mener toute une réflexion en signalant que les sociétés qui sont réellement cultivées sont sans doute des sociétés où la nourriture a aussi une importance et où on peut parler de la nourriture. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser aussi à cette question de la gastronomie et de trouver naturel quelque part de la lier avec la philosophie pour cette conférence sur donc la passion de manger dans la philosophie stoïcienne et augustinienne. Or, pour nous en parler, Gaël Jean-Marc, quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissez parce qu'elle est une habituée et que l'an dernier, elle a notamment animé tout un cycle de conférences sur la philosophie de l'éducation. C'est quelqu'un qui a une formation et un doctorat en philosophie et c'est aussi quelqu'un qui a mis en place une association à Liège qui s'appelle Philocité et qui essaye de faire la philosophie autrement et avec un autre public. Et c'est une des raisons pour laquelle j'aime particulièrement l'inviter ici, en plus du fait qu'elle a écrit de nombreux ouvrages et des choses très intéressantes. Je citerai juste, parce que ça a directement rapport avec les passions, son ouvrage sur le courage. Voilà, voilà, je lui laisse tout de suite la parole.
Bonsoir. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, j'ai raté la première marche, mais bonsoir à tous. Je suis enchantée de revenir ici après quelques mois. C'est comme un peu un deuxième chez moi à force de venir. Donc voilà, je suis heureuse de revoir certaines têtes connues. et d'avoir l'occasion donc de travailler sur une thématique qui n'est pas tout à fait neuve. Pour moi, c'est plutôt un retour en arrière, puisque j'ai fait une thèse de philo sur Saint Augustin il y a presque 15 ans. Et donc j'ai dû, pour préparer cette conférence, retourner à cette thèse. C'était un peu douloureux. Je ferai d'abord un premier commentaire sur la difficulté qu'il peut y avoir à combiner une séance sur les passions, quand on parle de l'Antiquité, comme ce sera le cas aujourd'hui, et sur la gastronomie, parce que en réalité, le domaine des passions, c'est le domaine de la morale, et la gastronomie est par définition amorale. Donc je parlerai, autrement dit, pas du tout de la gastronomie, parce que dans l'Antiquité, il ne peut pas y avoir une morale de la gastronomie. Le plaisir pris à la nourriture est par définition un plaisir excessif qui est condamné, condamnable de façon tout à fait univoque par toutes les morales antiques qui sont toujours des morales ascétiques ou à peu près. En tout cas, particulièrement celles que je verrai aujourd'hui, donc la morale stoïcienne et la morale chrétienne, sont des morales profondément ascétiques. Alors, en introduction, un petit mot sur la passion et un petit mot sur la passion de manger en particulier. Concernant la passion, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un changement de paradigme et qui est un gouffre, en fait, entre la considération ambiante de la passion aujourd'hui, qui est très positive, dans le fond. Une vie a du sens si c'est une vie passionnée. On a volontiers comme jauge du sens de notre vie, son intensité. On loue les passions fortes. On loue aussi les émotions, les grandes émotions, on les recherche potentiellement. Eh bien, il faut se rendre compte, pour faire cheminer gentiment vers l'Antiquité, qu'en réalité, déjà le mot passion en grec, c'est le mot pathos, a d'emblée une signification extrêmement négative. Il signifie à la fois la passivité, donc être absolument à la merci des choses, complètement passif. Donc c'est très loin d'être une notion d'intensité au sens quelque chose d'actif. Non, on est passif devant la réalité, devant les événements. Et puis une connotation négative aussi, puisque connote la souffrance. La passion, c'est la souffrance. Donc c'est tout à fait une maladie, un dérèglement qui doit absolument être combattu. Oui ? Oui, il me semble effectivement, moi je m'entends un peu trop aussi, mais... Peut-être comme ça. Alors, on m'entend toujours là derrière ou bien c'est fini? Non, ça va? Oui, c'est mieux pour moi aussi, oui. Merci. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est faire une histoire de la passion en passant chez les stoïciens, chez les stoïciens et chez Saint Augustin, qui représentent des étapes intéressantes dans cette histoire, finalement, de la passion. Ils sont, les stoïciens, d'abord extrêmement représentatifs de cette lutte contre la passion, dont je vous ai dit qu'elle était très générale dans l'Antiquité, puisqu'ils sont particulièrement portés par un idéal d'apathie. La sagesse, c'est le résultat d'un combat mené contre les passions et qui est victorieux. On parle aujourd'hui de rester stoïque. La trace dans la langue française de ce volontarisme stoïcien sur le sujet, c'est-à-dire que rester stoïque, c'est finalement la volonté de subir les événements en dehors de toute inflammation passionnelle. Rester stoïque, c'est précisément refuser de s'enflammer, refuser de se passionner. C'est le sens que ça peut avoir en français. Et les stoïciens, effectivement, s'attaquaient à leurs états émotionnels. Et surtout, ils affirmaient qu'il était absolument dans notre pouvoir de combattre les émotions. Alors, Augustin, et je verrai avec vous vraiment quelles sont les étapes de ce combat contre les émotions. Donc, ce qu'on ferait presque, c'est de la morale au sens le plus pratique du terme. Je vous donnerai presque les recettes, si vous voulez, d'une philosophie très concrète et pratique, enfin très... pas tant que ça quand même, hein, mais les recettes d'un combat contre les émotions extrêmes, contre ces émotions qu'on pourrait regretter d'avoir eues, vous voyez, quand on s'est emporté ou quand on est pris dans l'angoisse. On peut se dire, mais comment faire pour gérer ces émotions-là, ces émotions négatives dont on aimerait se défaire et qu'on se sent impuissant à travailler? Eh bien, vous pouvez aller chercher chez le stoïcien une sorte de petit mode d'emploi de la lutte contre la passion. Mais vous verrez que ce mode d'emploi repose vraiment sur une conception théorique très très singulière de ce que c'est que la passion. Donc, je verrai aussi avec vous vraiment comment faut-il considérer la passion, quel type de conception de la passion, de l'émotion font-ils avoir pour considérer qu'on est dans la capacité de lutter contre ces passions. Donc, je fais quelque chose qui est peut-être un peu compliqué, c'est de dire, dans le fond, pour se rendre puissant à l'égard de ses propres passions, il faut avoir une certaine représentation de ce qu'est la passion. Et ça dépend tout à fait de votre conception de la passion. Si vous la considérez d'une certaine façon, vous vous rendez par la même impuissant. Donc dans le fond, ce que je ferais, en passant en revue les stoïciens et Augustin, c'est passer en revue deux conceptions très différentes de la passion, une qui donne les moyens de lutter, et l'autre dont ce n'est pas du tout l'objectif, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de passer en revue les stoïciens, puis le pli vers Augustin qui hérite, qui critique les stoïciens. C'est vraiment pour vous donner comme ça une sorte d'articulation où on aura deux visages très distincts de la passion, deux définitions différentes de la passion, et deux systèmes moraux qui la prennent en charge d'une façon différente. Alors un mot sur manger, parce que jusqu'à présent j'ai parlé que de la passion en général et pas de la passion de manger. Alors dans cette conférence, ce sera une petite lucarne comme à travers laquelle je regarderai au début le thème plus général de la passion. C'est-à-dire que ce qui m'a alertée au début dans ma réflexion, c'est un passage des Confessions d'Augustin, précisément sur la passion de manger, et dans lequel il critique la théorie stoïcienne de façon explicite, de sorte que je pouvais prendre pied sur cette critique. C'est très rare chez Augustin, c'est quelqu'un qui commente peu la tradition, mais là on avait quelque chose, une sorte de positionnement d'Augustin par rapport aux stoïciens, et je partirai de là. Alors ce que je ferai avec ce passage, j'en aurai deux lectures de ce passage et de la transition qu'il montre entre stoïcisme et christianisme. Une première lecture pour considérer que ce passage est l'indice de l'ouverture d'un nouveau champ de savoir, ce que permettrait Augustin dans ce passage en critiquant la théorie stoïcienne de la conception stoïcienne de la passion de manger, ce qu'il permettrait, c'est d'ouvrir un nouveau champ de savoir qui était inconnu des stoïciens. Si vous voulez, une lecture plus épistémologique, à quelles conditions est-on capable d'étudier certains phénomènes comme la passion à l'égard de la nourriture. La deuxième lecture, elle est plus foucauldienne. Vous savez peut-être que j'aime bien Foucault, voilà, ce sera l'occasion d'y retourner un peu, enfin du moins de m'en inspirer. Ce qui m'intéressera dans cette deuxième lecture, c'est plutôt l'aspect très pratique. Dans le fond, c'est quelque chose qui intéresse Foucault, ça, les pratiques, la morale dans son aspect d'exercice spirituel concret. Et ce sera précisément de voir à l'œuvre, donc ce que je vous disais tout à l'heure, deux théories qui donnent lieu à deux types de morale pratique concrète. Une qui se rend très puissante dans la gestion des passions et l'autre, au contraire, plutôt impuissante. Alors, je vais commencer, avant d'en arriver à ce passage des Confessions dont je vous ai parlé, par vous dire quelques mots sur la passion de manger, sur la faim, chez les stoïciens, en partant de la conception d'Épictète, qui est un des grands stoïciens. Je ne vais pas vous faire l'histoire du stoïcisme, elle est extrêmement complète. Et je passerai beaucoup de temps à essayer de vous situer les stoïciens les uns par rapport aux autres. Il y a beaucoup de penseurs, c'est souvent des tout petits extraits. Il faut beaucoup de patience pour recomposer un corps de doctrine. Comme ce n'est pas l'enjeu, je Je vous cite des noms comme ça, sans prendre la peine de les situer. Bon, voilà, si ça vous intéresse, ben voilà, le travail restera à faire. J'en suis désolée, mais c'était pas tout à fait l'enjeu, disons, d'aujourd'hui. Donc, Épictète considère, d'abord très généralement, disons, il y a un grand partage qui est fondamental chez les stoïciens, fondamental pour la morale, entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et qu'il faut que je m'applique à rendre indifférent. C'est-à-dire que la liberté est à ce prix, au prix de la conscience permanente, du travail permanent, mental, de partage entre telle chose dépend de moi, telle chose ne dépend pas de moi. Si elle ne dépend pas de moi, je dois m'appliquer à me rendre indifférent à cette chose. Pourquoi c'est un travail de liberté ? Ben, c'est que finalement, l'esclavage consiste fondamentalement à se tracasser pour les choses qui ne dépendent pas de moi, qui ne sont pas de mon ressort. C'est ça l'esclavage aux yeux des stoïciens. Or, le corps, selon Épictète, ne dépend pas de moi. Ça veut dire que je ne peux pas m'identifier à mon corps m'est étranger. Donc dans ce grand partage, il faut que je considère que le corps ne dépend pas de moi. Et que la faim, dans la mesure où elle est liée au corps, ne doit pas davantage m'occuper. Autrement dit, je vous le disais au début, pas question d'imaginer une gastronomie, vous verrez qu'on a une gastronomie stoïcienne, on est à milieu de ça. Le travail moral des stoïciens, c'est au contraire de se rendre absolument indifférent aux questions qui concernent la nourriture, la boisson, voilà, les vêtements, ce genre de choses, enfin, tout ce qui concerne finalement le corps. Je vous cite Épictète, « Pour les choses qui regardent le corps, ne les reçoit que dans les limites de la stricte utilité, comme la nourriture, la boisson, le vêtement, la maison, les gens de maison, pour ce qui vise à l'apparence et au confort, ré-le d'un trait. » Donc c'est une morale du rien de trop, c'est-à-dire dans ces matières où les choses ne dépendent pas de moi, il faut s'appliquer à une attitude d'indifférence, à cultiver une indifférence, c'est comme un style de vie à cultiver qui est l'indifférence à l'égard de la nourriture et du manger, qui doit finalement être circonscrit à une activité qui se limite à répondre aux besoins nécessaires. Donc, ça ne veut pas dire que je dois négliger absolument la nourriture, c'est que je dois me surveiller constamment pour ne pas manger plus que ce qui est nécessaire. La deuxième grande idée des stoïciens et d'Épictète plus particulièrement concernant le manger, c'est que la faim, c'est une maladie. C'est une maladie au même titre que toutes les maladies liées à la souffrance. On n'est pas bien quand on a faim, on souffre. Et c'est une maladie qui meurt si on ne la soigne pas à temps. Donc, de la même façon, il y a une conception relativement basique de ce que c'est la faim. On ne va pas être dans le plaisir gustatif, etc. Non, revenons à la plus simple expression de ce que c'est la faim. Eh bien, c'est une maladie qu'il faut soigner à temps pour ne pas mourir. Mais c'est aussi ça, le stoïcisme, c'est s'appliquer à regarder la faim sous cet angle-là. Je vous invite à le faire quand vous serez tout à l'heure peut-être devant votre assiette. Eh bien, s'appliquer à dire « ma faim n'est rien d'autre qu'une maladie que je dois soigner à temps, point, pas plus ». Alors, c'est tout un travail mental aussi qui doit être fait pour savoir distinguer la faim de la passion de manger. Quand sommes-nous affamés et quand sommes-nous gourmands ? Quelle est la distinction ? Y a-t-il un moteur différent de l'impulsion à manger selon qu'on est passionné, c'est-à-dire qu'on est dans la gourmandise, ou selon qu'on est simplement dans l'appétit ? Alors selon Épictète, il y a effectivement deux facultés qui suscitent comme ça le désir de manger. Il y a d'une part ce qu'il appelle l'orexis, et qu'on retrouve dans anorexie, vous voyez, orexis, ça veut dire l'appétit. Qui gère le besoin nécessaire. Et il y a d'autre part l'épithumia, c'est un terme qui vient de chez Platon et qui signifie justement, qui réfère au désir et à la partie irrationnelle de l'âme, chez Platon en tout cas, on verrait que ce n'est pas tout à fait le cas chez Épictète. Mais voilà, c'est effectivement une conception qui divise deux parties de l'âme, l'orexis qui est l'appétit, l'épithumia qui est le désir, en disant voilà, quand l'impulsion à manger vient de l'orexis, ben vous êtes effectivement dans le simple besoin naturel de manger, et quand elle vient de l'épithumia, bien vous êtes dans le désir de manger, vous êtes dans la gourmandise. Alors l'intérêt de cette distinction, il est simplement pratique et éthique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez envie de manger, vous devez simplement vous poser cette question, épithumia, orexis. Voilà, c'est pas que ça existe concrètement, qu'il y aurait des parties de l'âme qui seraient situées ailleurs. Les stoïciens pensent au contraire que l'âme est une. Il y a un monisme de l'âme. Mais c'est que la distinction est fonctionnelle. C'est intéressant simplement pour se poser dans une hygiène de vie quotidienne la question de savoir qu'est-ce qui nous meut. Alors, pour qu'il y ait une morale, il faut qu'il y ait une possibilité de résister. Donc, je vous disais que cette distinction était fonctionnelle, ça veut dire qu'elle offre la possibilité de résister au désir de manger. Alors, le propre de... disons, ce qui fait le comportement moral dans l'alimentation, c'est précisément ce qui distingue l'homme de l'animal. L'homme peut être moral parce qu'il a la capacité de résister à son envie de manger. Vous voyez que chez les animaux, par exemple, cette capacité n'existe pas. C'est-à-dire que l'impulsion, la représentation ou l'envie de manger, dès qu'elle surgit, elle est immédiatement suivie du comportement alimentaire. Vous voyez, un chien, il pense, vous dites, nonos ou que sais-je, manger. Immédiatement, il fonce vers sa gamelle, ou bien il voit sa gamelle, il sent l'odeur. Vous avez sûrement vu un chien, c'est... et c'est fini. Donc ce qui fait le propre de l'homme, c'est précisément que la représentation de manger précède le comportement, et nous avons la possibilité de lui refuser notre assentiment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, à chaque fois que nous avons l'envie de manger, immédiatement, comme un animal, obligés de nous ruer sur le frigo pour le dévaliser. Toute la morale stoïcienne sera vraiment basée sur l'analyse de cette possibilité-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ? Qu'est-ce qui permet comme ça une morale concernant les comportements alimentaires ? Eh bien, c'est vraiment cet écart entre la représentation, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui vous ferait envie, une bonne lasagne ou bien des noix de Saint-Jacques, des petits toasts, du chocolat. Eh bien, vous avez la possibilité de refuser votre assentiment à ces représentations pourtant alléchantes. Alors, je mine gentiment vers Augustin concernant la passion de manger. Il faut d'abord savoir avoir une sorte de panorama global. C'est que le stoïcisme a un succès incroyable. C'est vraiment une doctrine extrêmement populaire. D'ailleurs, pas seulement populaire, elle concerne à la fois les milieux aristocratiques et les milieux populaires. Pour vous citer deux noms, il y a Marc Aurèle, qui est empereur, qui est un des grands stoïciens, mais il y a aussi Épictète, dont je vous ai parlé, qui est un esclave. Donc on est là devant une morale et une philosophie qui, contrairement au platonisme ou à l'aristotélisme, qui étaient vraiment uniquement des philosophies de l'aristocratie, sont des philosophies qui potentiellement concernent tout être humain en droit comme en fait. Et ça veut dire aussi que le stoïcisme a un immense succès, une immense diffusion dans l'Empire romain pendant les premiers siècles de notre ère. Alors, il aura donc une influence assez grande sur la morale chrétienne, sur la religion chrétienne, sur la théologie chrétienne, qui est en voie d'élaboration, qui est en train progressivement de se fixer et même de s'imposer progressivement, et qui va vraiment reprendre beaucoup d'éléments de la théorie stoïcienne. On trouve ça particulièrement chez Clément d'Alexandrie, qui reprend presque mot pour mot la théorie stoïcienne de l'alimentation, notamment dans le Pédagogue, où il développe une morale des comportements alimentaires, qui est une morale chrétienne, mais d'inspiration stoïcienne. Alors, le propre de cette réadaptation de la morale stoïcienne par Clément d'Alexandrie, c'est l'insistance sur la question du plaisir. Le problème pour Clément d'Alexandrie, c'est que on a beau avoir cette distinction orexis epithumia, donc appétit ou désir, reste que le plaisir est un accompagnement assez fréquent, peut-être même permanent, de l'orexis, c'est-à-dire que même quand vous mangez pour répondre à un besoin physique, eh bien, il y a quand même un accompagnement qui est, voilà, le plaisir comme une sorte de petit laquais qui accompagne les besoins physiques, la satisfaction des besoins physiques. Il faut se méfier, évidemment, hein, du plaisir. On est chez les chrétiens, donc il faut se méfier. Enfin, c'est très stoïcien aussi, hein, la méfiance à l'égard du plaisir. Ça veut dire qu'on a effectivement une morale extrêmement rigoriste qui surveille le plaisir partout où il peut exister et qui conseille par conséquent, sous peine d'être passionné et donc d'être dans le péché, la faute, de ne manger que des choses déplaisantes. Je vous avais annoncé qu'on n'était pas dans la gastronomie, voilà la confirmation, chez Clément d'Alexandrie, il ne faut manger que ce qui est déplaisant, précisément pour éviter cette confusion possible qu'il y a entre l'orexis et l'épithumia, donc entre l'appétit et la gourmandise. Ça reste possible cependant pour Clément d'Alexandrie. Cette morale ascétique permet réellement une ascèse de l'alimentation et elle permet qu'on évite la gourmandise. Or, précisément, quand Augustin parle de l'alimentation au livre 10 des Confessions, il commence par reconsidérer cette possibilité-là. Donc, il connaît Clément d'Alexandrie, il connaît cette théorie stoïcienne du besoin naturel, de l'orexis ou bien de l'épithumia, mais il la conteste. Je vous cite le passage pour que vous ayez aussi un petit peu voilà, la musique, en tout cas de la traduction, hein, je ne vais quand même pas le faire en latin. La musique de la traduction d'Augustin. Vous m'avez appris à ne prendre les aliments que comme des remèdes. Il s'adresse à Dieu hein, dans les confessions. Mais quand je passe de ce pénible besoin à la quiétude de la satiété, dans ce passage, la concupiscence me tend son piège. Car ce passage même est un plaisir et il n'y en a pas d'autre pour arriver où la nécessité nous force à nous rendre. La conservation de la santé est la raison du boire et du manger. Mais un dangereux plaisir, comme un laquais, accompagne ses fonctions et ordinairement s'efforce de prendre les devants de sorte que je fais pour lui ce que je dis et veux faire pour ma santé. Or, la mesure de l'un n'est pas la même que celle de l'autre. Ce qui est assez pour la santé ne l'est pas pour le plaisir, et souvent il est difficile de savoir si c'est un besoin physique qui demande encore à être satisfait, ou la sensualité qui nous dupe et veut être servie. Autrement dit, ce que dit Augustin, c'est qu'on ne peut plus, comme chez les stoïciens, opposer ce qui se fait par nécessité à ce qui se fait par plaisir, on ne peut plus opposer la simple satisfaction des besoins physiques à ce qui se fait par plaisir, parce que la satisfaction des besoins physiques s'accompagne nécessairement du plaisir, c'est-à-dire que satisfaire un besoin physique est source de volupté. Donc il n'y a pas de séparation entre les deux. De sorte que dès qu'on mange, et quoi qu'on mange, on est toujours dans l'incertitude. On ne peut pas aussi facilement trancher, on n'est pas dans cet examen de soi où on essaye de voir plaisir ou pas, gourmandise. C'est plus du tout possible, parce que manger est nécessairement plaisant. Simplement parce que même quand ça satisfait un besoin, c'est plaisant. Autrement dit, l'auscultation de soi est infinie et ne nous garantit jamais, puisque de toute façon c'est impossible d'arriver à cette sorte d'ascèse où on est sûr d'échapper à la gourmandise. On n'est jamais sûr que quand on mange, c'est la nécessité de prendre soin du corps qui nous guide. On n'est jamais sûr que ce n'est pas au contraire la volupté trompeuse, elle a toujours ces aspects-là, elle est toujours trompeuse, et donc on peut toujours se laisser abuser. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un passage de ce type-là? Ça c'est les gestes un peu du commentateur, là. Eh bien c'est ce que je vous disais, c'est on a toujours des options devant ce type de passage. J'ai trouvé une auteure qui commentait ce passage-là, qui est Maria d'Araki, qui disait « Quelle merveille ! C'est un passage qui montre une connaissance beaucoup plus fine des chemins de la passion humaine, des hésitations, du fait qu'on est toujours dans le trouble, et que dans le fond, il y a quelque chose d'extrêmement simpliste chez les stoïciens, dans ces découpes-là qui ne correspondent jamais tout à fait à la réalité. » Donc on peut effectivement concevoir, c'est une thèse qui peut se défendre, que dans ce type de soupçon, peut-être comme dans tout soupçon, ce qui s'ouvre, c'est un nouveau champ de savoir, c'est une nouvelle possibilité d'aller examiner d'un peu plus près, dans le fond, les chemins secrets de l'âme. Et si on va effectivement dans les confessions d'Augustin, ben on aura effectivement le sentiment d'aller avec un microscope dans les atermoiements, les chemins secrets, les petites délibérations intimes, les hésitations, enfin tout ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu les confessions, mais ça peut être presque douloureux de lire les confessions, tellement on marine comme ça dans une sorte de soupe assez épaisse d'émotions, de analyser assez finement, mais assez finement aussi, dans le fait qu'elles sont pas tranchées, quoi, qu'on peut pas vite dire ça c'est ça et ça c'est non, on est toujours voilà dans une infinie dentelle, et donc on pourrait effectivement dire que peut-être que les stoïciens signent le début de la psychologie. Alors ça, il faudrait presque faire une conférence là-dessus, mais sachez simplement que c'est une thèse qui est régulièrement soutenue. C'est dire, mais dans le fond, il n'y a pas de psychologie avant... Enfin, ça n'existe pas nécessairement. Il y a un moment où ça apparaît, un intérêt pour l'homme en tant qu'intimité, en tant qu'il se retourne sur lui-même et sur les chemins de son esprit. Là, or, on prétend assez régulièrement que les stoïciens inventent la psychologie. C'est qu'effectivement, avec ce partage entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, avec cette nécessité morale de s'interroger en permanence sur cette question, eh bien, on arrive à délimiter comme les frontières entre le moi intérieur, ce qui dépend de moi, c'est ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je veux, vraiment ça, fondamentalement, ma volonté. Et on dit même, d'ailleurs, que les stoïciens peuvent être à l'origine de la conception de la volonté, que cette faculté-là n'a pas été conçue avant les stoïciens, et que c'est ce type de morale qui établit des partages entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, qui peut faire émerger voilà, une faculté qui est la volonté. Alors on peut dire aussi qu'il y a une psychologie stoïcienne, parce qu'il y a un véritable intérêt des stoïciens pour la passion, précisément, c'est-à-dire qu'il y a comme des dossiers, des analyses, des formes de passion. On trouve par exemple une analyse de la colère chez Sénèque. Disons que dans la mesure où l'enjeu moral premier, c'est l'apathie, eh bien c'est évident qu'il y a un intérêt particulier des stoïciens pour étudier les passions. L'autre raison pour laquelle on peut aussi faire des stoïciens l'origine de la psychologie, c'est une conception beaucoup plus émotionnelle, d'une certaine façon, de la raison. Ils veulent considérer que l'âme est une, qu'on n'a qu'une seule faculté rationnelle. Symptomatiquement, je fais ça, mais en réalité, précisément, les stoïciens contestent que le siège de cette faculté unique que nous avons soit dans la tête, comme le considéraient classiquement les Grecs avant eux. Ils considèrent au contraire que cette faculté unique siège dans le cœur, plutôt. Et ils prennent appui sur le fait que nous parlons, que notre langage est raisonné, rationnel, que c'est la façon même pour nous d'exprimer notre raison, c'est la parole. et que la parole passe par le larynx, pour qu'il y ait un trajet relativement plausible entre le siège de la raison et l'expression de la parole, eh bien, il faut imaginer que le siège de notre âme se trouve dans le cœur. Ils ont aussi une conception, ils prêtent vraiment attention à une physiologie des passions, c'est-à-dire que voilà, notre âme elle est ici, dans le cœur, et peut-être que les chrétiens hériteront aussi de cette sorte de descente du siège de l'âme humaine, de l'esprit, du cerveau vers le cœur. Mais ils considèrent aussi vraiment la passion dans ses dimensions physiologiques. Ils s'intéressent, c'est-à-dire que pour eux, les passions sont très concrètement des contractions, des dilatations du cœur. Contraction devant un objet présent, eh bien, c'est la souffrance. Dilatation devant un objet présent, c'est le plaisir. Inclinaison, inclination, envie devant un objet absent, c'est le désir. Et recul ou rejet d'un objet absent, c'est la peur. On a là les quatre passions fondamentales pour les stoïciens, qui sont toutes des mouvements physiques, vraiment, de contraction, de dilatation, d'inclinaison, ou au contraire de recul et de rejet. Et c'est physiologiquement ça, réellement. Donc il y a des études, on s'intéresse à ça, à une physiologie des passions. Et c'est quelque chose qui a vraiment manqué, dans le fond, dans l'Antiquité. C'est déjà que on s'intéressait relativement peu aux passions, on s'intéressait bien davantage à la raison. Et c'est que il y avait, si on s'intéressait aux effets, enfin, disons à la physiologie des passions, comme par exemple Homère, il peut décrire la peur ou la par toute une série de symptômes physiques, disons, ou la colère, par la rougeur, que sais-je. Mais c'est néanmoins sans qu'il y ait de siège de ces passions dans une âme humaine. C'est comme des vents, des souffles qui sont insufflés par les dieux aux hommes, de sorte qu'il n'y a pas du tout de psychologie des passions. On s'intéresse peut-être au mouvement, la physique, mais c'est des vents qui traversent les êtres humains qui sont absolument sous la dépendance des dieux. Si vous êtes en colère, c'est parce que Athéna s'est penchée au-dessus de vous pour souffler, insuffler les mouvements physiologiques de la colère. Pas de responsabilité humaine de ces émotions qui nous traversent, et du coup pas de psychologie possible. Donc effectivement, il y avait quand même un fameux pas qui avait été accompli par les stoïciens, et ce que prétend Maria d'Arachi, c'est qu'avec Augustin, on va encore autrement plus loin. Alors pourquoi ? C'est parce que si l'homme passionné est enfin perçu, étudié dans ses réalités propres, si on s'intéresse enfin aux émotions, c'est pour les rejeter peut-être même plus violemment que jamais, hein, puisque je vous ai dit que l'idéal de la sagesse, c'est l'apathie. Donc si on veut, c'est que les dossiers de la psychologie stoïcienne, qui sont assez subtils et assez novateurs, ce sont pourtant des pièces d'accusation pour évacuer d'autant mieux le sujet passionné qu'on le connaîtra plus précisément. C'est qu'il y a quelque chose qui est quand même encore profondément grec chez les stoïciens et qui consiste à reconnaître sa nature d'homme dans sa fin. Alors, c'est pas tout de suite évident, peut-être. Ça signifie, en fait, que on ne naît pas homme, on le devient. Voilà une phrase assez banale, mais qu'il faut encore faire signifier davantage. C'est-à-dire que notre nature d'être humain ne nous est pas donnée au départ, elle est à réaliser. Réaliser en soi l'humanité dont on est porteur, mais que de façon potentielle. Ça, c'est la responsabilité morale extrême. Vous n'êtes pas homme, vous avez à le devenir. Comment ? Eh bien, en évacuant toutes les formes de passion. Donc on a beau connaître l'homme passionné, il est extrêmement important de les évacuer, parce que l'humanité est à ce prix. Nous devenons proprement hommes qu'en réussissant à maîtriser et à dépasser nos passions. Voilà, ça c'est la conception stoïcienne de la nature humaine. La nature humaine, c'est l'homme non passionné. Alors, c'est très très différent chez Augustin. On est vraiment, il y a une sorte de basculement complet. Si Augustin a une conception de la passion assez négative lui aussi, c'est-à-dire que la passion s'est aussi identifiée à des formes de péché, reste que l'attitude devant le péché est tout à fait différente. C'est que nous n'avons plus du tout à rejeter nos péchés, nous n'avons plus du tout à devenir non passionnés, ce serait même une faute d'orgueil incroyable de le prétendre. Nous avons au contraire à reconnaître à quel point nous sommes passionnés, à quel point nous sommes soumis à nos passions et comment nous sommes absolument incapables de dépasser nos passions. Donc c'est ce pari-là, cette conception finalement différente de la nature humaine qui n'est plus définie par un projet, une finalité à réaliser, mais au contraire par un péché originel qui fait de nous des hommes passionnés de façon indépassable. Et c'est cette définition de la nature humaine complètement différente qui bascule par rapport aux stoïciens et qui fait peut-être que la passion peut désormais être véritablement et complètement étudiée chez les chrétiens et particulièrement chez Augustin. Donc effectivement, si vous lisez les Confessions, on a une connaissance de la passion, de ces cheminements obscurs qui est vraiment extrêmement fine, je dirais presque douloureuse dans la lecture, à force de mariner dans ces passions tristes. Alors, le cheminement moral est aussi très différent. Je vous ai dit, chez les stoïciens, il s'agit de se forger à l'image d'un homme non passionné, il s'agit de se dépassionner. L'image qui revient souvent, c'est celle de la statuaire. C'est vraiment une sorte de construction positive de soi-même par élimination des scories, pour comme un tailleur enlève dans le marbre les éléments qui vont lui permettre de dessiner, de sculpter une statue. C'est ça l'image du cheminement moral. Et l'image du cheminement moral chez Augustin, elle est bien différente. C'est l'image, une image agraire. Il faut aller déraciner les mauvaises herbes. C'est ça l'image qui vient le plus souvent. Mais ça veut dire quelque chose d'assez différent, c'est que dans le stoïcisme, on se construit à l'image d'un idéal qu'on doit réaliser, qu'on doit incarner, une forme extrêmement positive de morale, se construire à l'image d'un modèle. Chez Augustin, on n'est plus du tout là-dedans, on est au contraire en train d'aller guetter en soi-même tous les chemins secrets de la passion, c'est-à-dire tous les chemins secrets de ces péchés, de ces 7 péchés capitaux dont on ne cesse de guetter en soi l'émergence. Donc c'est une morale qui n'est plus positive, construction vers un idéal, mais qui est beaucoup plus négative au sens attentive à toutes les fautes qu'on peut commettre. Attentive à les ausculter, à s'ausculter en permanence, d'où effectivement une connaissance incroyablement plus fine, puisque le cheminement moral, ce n'est plus de se construire dépassionné, mais au contraire de se reconnaître et de s'avouer dans le moindre détail de ces passions qui ne cessent de nous traverser. Le projet des confessions est donc effectivement différent. Je vous lis un passage qui montre à quel point c'est une tâche. C'est même une tâche un peu douloureuse, c'est une tâche qu'il faut se contraindre à mener que de s'ausculter soi-même. Il parle à Dieu, toujours. « Tu me retournais vers moi-même, me ramenant de derrière mon dos où je m'étais mis pour ne pas porter les yeux sur moi. Et tu me plaçais bien en face de moi pour me faire voir combien j'étais laid, combien j'étais difforme et sordide, couvert de taches et d'ulcères. Je voyais et j'étais horrifié. Mais il n'y avait pas de lieu où fuir loin de moi. » Si j'essayais de détourner de moi mon regard, toi de nouveau tu me plaçais devant moi, tu enfonçais mon image devant mes yeux pour me faire rencontrer mon iniquité et la haïr. L'image qui me vient, moi je reviens à mes chiens de tout à l'heure, c'est l'image du maître qui maintient le nez du chien sur l'étron coupable pour lui dire « Allez, regarde un peu ce que t'as mal fait ». Et c'est le fait même de rester le nez sur son caca qui permet éventuellement de cheminer moralement. Voilà. Alors, c'est une première lecture, disons, épistémologique de ce cheminement dans la théorie des passions. Je vais vous en proposer une deuxième qui s'intéresse donc plutôt, comme je vous l'ai annoncé, à l'aspect pratique, aux techniques de soi liées au cheminement moral. C'est-à-dire que la morale, c'est pas qu'une théorie des passions, c'est pas qu'une condamnation des passions, c'est aussi une transformation concrète de soi-même qui repose sur un certain nombre d'exercices spirituels pour arriver là où on cherche à parvenir. Je voudrais juste avoir une petite idée de l'heure pour savoir un peu où j'en suis, mais j'ai pas.
7h05.
D'accord. Je suis au tiers à peu près de ce que je voulais dire. Je vais me faire un tout petit peu.
Passionnez-vous.
D'accord. Alors, donc cette deuxième lecture, ce que je vais vous faire, c'est vous proposer donc de voir d'assez près la cure des passions chez les stoïciens. Ce qui me semble intéressant, effectivement, c'est presque de vous amener à déplacer le regard qui risque d'être potentiellement plus proche des chrétiens que des stoïciens, simplement parce que, précisément, le stoïcisme étant pour nous passé à travers le filtre du christianisme, il est relativement probable qu'on ait un rapport à ses propres passions qui soit finalement hérité d'une tradition chrétienne, que nous soyons chrétiens ou pas d'ailleurs, hein. Donc c'est ce genre de pas de côté qui m'intéresse. Alors la particularité des stoïciens concernant la passion, c'est qu'ils considèrent que la passion est un jugement, un processus mental. Donc les passions sont des représentations mentales. On est triste parce que nous portons sur la réalité un jugement, sur la mort, nous portons un jugement qui l'apparente à un événement dramatique. Épictète dit « La mort n'a rien de redoutable. Ce qui est redoutable, c'est le jugement que nous portons sur la mort qui en fait quelque chose de redoutable. » Alors, il faut être très précis sur ce que c'est ce jugement en lequel la passion peut consister. On ne cesse de se représenter la réalité. Alors, la représentation de la réalité, ce n'est pas simplement l'image dans notre esprit de la réalité qui peut être vraie ou fausse selon que ce que nous nous représentons existe effectivement, c'est effectivement passé ou pas. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que il y a la représentation porte à la fois sur un objet, un événement que nous nous représentons, mais aussi sur ce que nous en pensons. Par exemple, on ne dit pas simplement « un tel est mort », on ajoutera rapidement une formule qui montre qu'on a aussi une évaluation de cet état de fait qui est vrai ou faux, et qui pourrait être « c'est un grand malheur, un tel est mort ». On n'a pas l'impression vite de porter un jugement, on a l'impression, enfin disons que ce jugement peut passer quasiment inaperçu. Alors, pour les stoïciens, pour qu'une représentation soit adéquate, c'est-à-dire qu'elle soit non passionnée, il ne suffit donc pas que l'événement que représente, qu'elle représente soit réel, mais aussi que le sens de la représentation n'excède pas celui de l'événement, c'est-à-dire que nous n'ayons rien rajouté à la réalité des faits. Je vois quelqu'un qui fait non, je ne sais pas si. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que les stoïciens découvrent donc que les représentations qu'on a des choses peuvent nous asservir, et même que seules les représentations que nous avons du monde nous asservissent. Autrement dit, en identifiant la passion à un jugement, une représentation, on a trouvé le lieu unique de l'asservissement des êtres humains, et donc on a aussi trouvé le seul travail indispensable pour se libérer, contrôler ses représentations. Donc le travail moral pour devenir moins passionné va être un travail qui consiste à contrôler sans cesse ses représentations, c'est-à-dire temporiser par rapport aux représentations qui sont trop séduisantes et décomposer les représentations qu'on a pour les analyser. Ça a l'air assez intellectuel, et effectivement, vous verrez, ça l'est quand même un petit peu. L'image stoïcienne assez fréquente, c'est celle du changeur de pièces de monnaie, du changeur d'argent, qui doit vérifier sans cesse l'authenticité de la monnaie qu'il accepte. Vous devez être, à l'égard de vos représentations, comme un changeur de monnaie à l'égard de l'argent, c'est-à-dire que vous devez vérifier en permanence l'authenticité de ces représentations. Non seulement l'authenticité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais aussi la valeur. Est-ce que la valeur que j'accorde à tel événement est effectivement une valeur adéquate, ou est-ce que j'y ai rajouté quelque chose qui me rend malheureux ? Alors, la première condition de ce travail sur les passions, c'est de savoir que nous ne cessons de juger. Or, précisément, la plupart du temps, les jugements que nous posons sont inconscients d'eux-mêmes. C'est bien ça le plus difficile, c'est qu'on ne cesse de confondre la réalité et le jugement qu'on formule sur elle, de sorte que souvent nos représentations sont implicites, elles sont irrationnelles, et elles s'interposent comme malgré nous, entre nous et la réalité. Nous ne cessons de colorer les choses, nous ne cessons d'y ajouter mille choses, sans même nous en rendre compte. Tant qu'on ne s'en rend pas compte, aucun travail moral n'est possible. Donc, première nécessité, c'est de s'ausculter en permanence pour voir tous ces jugements que nous ne cessons de poser en permanence sur la réalité. Alors ça m'amuse un peu parce que ce mot jugement, je trouve qu'il a une acception assez négative. On ne sait pas bien de juger. Alors il faut quand même être prudent parce que souvent, dans ce genre de cas, ça veut dire que ce n'est pas bien de dire du mal des autres ou ce n'est pas bien de déprécier. Mais il faut étendre un tout petit peu, il faut être plus exigeant que ça, c'est-à-dire on juge beaucoup plus souvent que dans ces cas où simplement on dit quelque chose de négatif. On ne cesse même de juger. Alors, la deuxième condition de ce travail moral sur les jugements, les représentations, pour se faire moins passionné, c'est de distinguer deux moments dans le jugement. C'est qu'il y a d'une part le jugement lui-même et d'autre part l'assentiment. Vous vous rappelez l'exemple du chien, il y a le moment où il y a la représentation de manger, et puis il y a l'assentiment donné à cette représentation. Ben, chez le chien, c'est un seul moment, c'est « je vois un nonos, je mange le nonos ». L'être humain, c'est potentiellement deux moments, c'est-à-dire je vois une splendide choucroute garnie et je me dis « j'ai vraiment faim ». Eh bien néanmoins, je peux donner un assentiment ou pas au jugement qui me fait penser « j'ai faim », par exemple. Je peux dire « mais non, je n'ai pas faim, ça doit être de la passion ». J'ai la possibilité de distinguer ces deux choses. Donc ce n'est pas la même chose que d'affirmer quelque chose et de donner son adhésion à cette affirmation. Et l'adhésion, c'est précisément l'assentiment. Alors, ce qui fait la différence entre le jugement et l'assentiment, ce n'est pas le caractère réfléchi, hein, on donne constamment son assentiment de façon tout à fait irréfléchie. Ce qui fait la différence, c'est la dimension de résolution ou d'impulsion à l'action. C'est-à-dire c'est parce qu'on donne son assentiment à quelque chose qu'on est poussé à agir ou qu'on est poussé à ressentir quelque chose. On peut prendre l'image du procès. Le fait d'écouter les différentes parties n'est pas encore un jugement. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore assenti à une thèse particulière. Donc l'enjeu moral de la théorie des passions, c'est de ne donner son assentiment que quand nous avons évalué soigneusement nos représentations et que nous les jugeons adéquates. Alors, les stoïciens distinguent trois types de jugements qui correspondent à trois formes de l'assentiment. Il y a l'opinion, qui est un jugement qui emporte un assentiment faible ou un assentiment tout à fait inconscient qui est donné à quelque chose qui n'a pas été compris. Ça, c'est la première forme de jugement qui correspond à un premier type d'assentiment. Il y a la compréhension, qui présente la marque évidente du vrai. On prend l'image de la préhension de la main, on prend quelque chose, vraiment, c'est actif. Et puis, il y a la science, qui présente une compréhension tellement sûre et solide qu'aucune raison ne pourra venir la modifier. Alors, on prend l'image de la main pour distinguer ces trois formes de jugement et ces trois formes d'assentiment. Soit vous avez un rapport à votre propre jugement qui est comme une main ouverte, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien sûr. Soit vous refermez solidement la main sur cette chose et vous êtes alors dans les formes d'assentiment extrêmement sûres, extrêmement fermes, parce que vous êtes sûr de votre jugement. Alors, on peut très bien assentir à la même proposition qu'un mathématicien, par exemple, sauf que cet assentiment à une même proposition n'est pas lié à la même compréhension claire et distincte. Ça veut dire que finalement, ce qui compte, c'est pas tellement le jugement lui-même, hein. C'est qu'il y a aussi ce travail de la compréhension qui fait que votre assentiment peut effectivement être solide et sûr, parce que vous comprenez, vous avez la compréhension. Donc, si vous voulez, une même proposition pourrait très bien être une opinion pour quelqu'un. C'est un théorème de mathématiques pour moi qui ne le suis pas du tout. Si je dis ben ça, c'est vrai, eh bien c'est une opinion, parce que au moment où je donne mon assentiment à ce théorème de mathématiques, je n'en ai pas pour autant la claire et distincte compréhension. Par contre, le mathématicien, lui, pourra avoir une compréhension assez sûre au moment où il donne son assentiment. Ça va, je ne sais pas trop si c'est d'une complexité qui vous noie complètement, ou bien bon, on verra dans les questions. Alors, il y a quand même une question qui se pose concernant cette capacité qu'on peut avoir de refuser son assentiment, parce que c'est une image qui revient assez souvent, c'est l'image du poids dans la balance, c'est-à-dire que quand quelque chose est compris de façon suffisamment claire, quand on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment analysé, c'est comme une pierre sur une balance, ça emporte naturellement votre adhésion. Or, précisément, les stoïciens, c'est les champions de la liberté. C'est ceux qui considèrent que le cheminement vers la morale, vers l'absence de passion, c'est ce qui fait de vous les êtres les plus libres, c'est-à-dire ceux qui parvenez à ne dépendre de rien de ce qui est étranger à vous. Mais votre jugement, votre assentiment, ne finit-il pas par devenir étranger s'il est simplement presque lié de façon nécessaire à la clarté d'une représentation ? Eh bien, il y a beaucoup de débats parmi les théoriciens pour dire ben non, c'est quand même déterminé d'une certaine façon, et finalement les stoïciens ne sont pas plus libres que les autres. Mais il y a une façon de défendre cette liberté, c'est en parlant du tonus de l'âme. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous être intuitivement, que vous pouvez voir un peu intuitivement, c'est qu'on a tous un tonus particulier. Il y a des gens où vous vous dites « Mais quelle incroyable énergie intellectuelle, quelle vivacité, quelle concentration, j'ai pas ça, moi je voudrais bien, mais je peux pas. » Eh bien, c'est ce tonus-là pourtant qui détermine la possibilité qu'a quelqu'un de donner ou de refuser son assentiment. C'est-à-dire que le sage, celui qui est non passionné, c'est celui qui a un très grand tonus de l'âme, une sorte d'unité tonique comme ça, qui lui permet de ne pas être entraîné dans des représentations qui ne sont pas compréhensives. Donc il n'est pas dans l'opinion, il ne va pas se laisser, il peut résister à la force d'une opinion communément admise, parce qu'il a comme cette tension de l'âme qui permet de ne pas se laisser emporter comme le poids d'une balance, voyez. Alors on pourrait reconduire la question du déterminisme à ce tonus, mais dans le fond, justement, est-on responsable du tonus de sa propre âme ? Eh bien, c'est du tonus de l'âme comme du tonus du corps humain, c'est la même chose. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on a une sorte de patrimoine au départ. Là, on est plus ou moins tonique physiquement, comme on est plus ou moins tonique intellectuellement. Mais notre responsabilité morale, notre première responsabilité, c'est peut-être justement d'accroître ce tonus. De la même façon qu'on peut le faire physiquement par de la gymnastique, eh bien, on peut le faire intellectuellement par de la gymnastique aussi, qu'on appelle des exercices spirituels. Donc c'est toutes ces formes d'entraînement mentaux où on trie ces représentations, où on s'applique justement à trier, à analyser, à décomposer, à réfléchir, de façon à tonifier son propre esprit. Disons peut-être que vous êtes là dans une sorte de gymnastique, vous avez décidé, plutôt que de regarder la télé ou d'aller vous promener, quoi que ça aurait pu être une forme de gymnastique aussi, non seulement physique mais mentale. Donc, voilà, peut-être, voilà, se maintenir, venir à une conférence, peut-être que c'est déjà une forme de gymnastique. La faire aussi, et c'est peut-être se maintenir, voilà, dans des états de tonus qu'on n'aurait pas si on décidait que plus jamais on ne va à une conférence et qu'à la place on regarde la télé, des séries à la suite l'une de l'autre, passivement. Enfin voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure, ce sera le dernier point concernant le stoïcisme, que les passions étaient extrêmement physiques, c'était vraiment des mouvements de répulsion ou d'attirance, des mouvements de dilatation ou de contraction. Or, précisément, concernant les passions, il y a quelque chose où on se dit c'est à peu près incontournable, c'est qu'on subit tous un certain nombre de symptômes physiologiques et que donc se construire non passionné, ça n'a pas beaucoup de sens. Comment faites-vous avec vos tremblements, votre pâleur, votre rougeur, que sais-je, tous ces symptômes, tout ce que nous attribuons, tout ce que nous considérons comme des symptômes de la passion? Mais il faut de nouveau une distinction conceptuelle pour que ça puisse marcher, c'est-à-dire qu'il faut dire que ces mouvements-là du corps, qui sont absolument indépassables, incontournables, on les subit, un point, c'est tout. Il se passe un truc effrayant, là, enfin, justement, un truc effrayant, c'est déjà un jugement, mais il se passe quelque chose. Vous sursautez. Physiologiquement, vous avez des symptômes que nous attribuons à la passion. Eh bien, les stoïciens amènent une distinction entre les pré-passions et les passions. C'est-à-dire que, effectivement, on peut avoir la sueur qui coule. On peut pâlir quand on se porte sur le champ de bataille et qu'on est combattant. On peut avoir les genoux qui tremblent, les genoux du plus féroce combattant peuvent trembler au moment de se porter comme ça vers l'adversaire. Peut-être que quand j'ai commencé ma conférence, j'avais les doigts un peu blancs ou que sais-je. Ça ne veut pas dire pour autant que j'étais nécessairement morte de trouille. C'est-à-dire, ça ne veut pas nécessairement dire que j'étais pour autant sujette à une passion. Ça veut dire que pour les stoïciens, ça ne suffit pas d'être emporté comme ça par un premier mouvement du corps, ça ne suffit pas à dire que nous sommes passionnés, parce que la passion, c'est l'assentiment donné à ces premiers mouvements du corps. C'est-à-dire que vous êtes passionné seulement si vous vous arrêtez à ce tremblement, à ce picotement, à ces bouffées de chaleur qui vous viennent quand tout à coup il y a quelque chose qui vous énerve un petit peu, si vous y arrêtez, si vous donnez votre assentiment, si vous dites ah ouais, d'abord votre assentiment à ces émotions, je suis complètement prise dans les représentations communes parce que normalement pour les stoïciens ce ne sont pas des émotions, ce ne sont pas des passions, ce sont des pré-passions. C'est-à-dire qu'on a encore la possibilité de les contrôler si justement on fait ce tri dans ces représentations, c'est-à-dire oui, il se passe quelque chose qui m'a fait sursauter, ou il se passe quelque chose qui fait que tout à coup j'ai une bouffée de chaleur qui me monte et comme une petite pointe de colère qui surgit. Mais on a encore la possibilité de ne pas donner son assentiment. C'est-à-dire on a encore la possibilité d'évaluer qu'on n'est pas entraîné par ces mouvements physiques. On peut encore redescendre, voilà. On a eu ce premier mouvement, mais il est possible d'éprouver autre chose qui n'a rien à voir immédiatement derrière, et ça dépendra tout à fait du jugement que nous portons sur la situation. Nous avons réagi de façon instinctive en sursautant, mais on peut très vite avoir un jugement qui nous apaise, qui apaise ces premiers mouvements et qui fait que nous ne sommes en réalité pas passionnés. Donc il faut vraiment distinguer les premiers mouvements de la passion proprement dite, qui est toujours une forme d'assentiment. On se laisse aller à sa passion, quoi. On se dit, allez, ok, on y va à fond, quoi. Je prends l'exemple des larmes. Il est tentant de dire que puisque nous pleurons, c'est que nous sommes tristes. C'est un raisonnement assez banal pour nous. On pourrait dire, pour les stoïciens, il est possible que nous pleurons de façon instinctive. Voilà, on pleure. La tristesse, ce ne sera que de prêter du crédit à ses larmes, c'est de se dire « Oh mon Dieu, je pleure » et d'avoir encore plus envie de pleurer. À ce moment-là, oui, on sera pris dans la passion de la tristesse. Mais on pourrait très bien considérer que, voilà, on a pleuré, et puis on passe à autre chose, et nous ne sommes du coup pas passionnés, nous ne sommes pas pris dans notre tristesse. Je vous inviterai peut-être à vous reporter sur ces façons dont vous pouvez donner crédit ou pas à des manifestations physiologiques, la physique de la passion. Et sur le fait que ne pas donner crédit, dire « ouais, c'est rien en fait, c'est le premier mouvement du corps, mais voilà, c'est pas... » On peut dédramatiser ses propres larmes, hein, potentiellement. On peut voir ce que ça donne de les dédramatiser. Alors c'est évidemment à toutes ces conditions de distinction entre pré-passion et passion. C'est évidemment à considérer que la passion est un jugement, une représentation de la réalité, qui est un jugement de valeur, qui excède le simple constat d'un événement, mais qui rajoute une coloration sur cet événement, et que nous donnons notre assentiment à ce jugement-là. C'est en considérant la passion sous cet angle-là qu'on peut effectivement se construire non passionné. On va voir que chez Augustin, c'est plus du tout... Enfin, on va voir, dis-moi, si on a le temps. Il reste combien de temps, Anne? Ah, c'est court, hein, ça. Je vais faire un petit tri. vous dire rapidement ce qui s'est passé... dans la façon dont Augustin a repris la théorie stoïcienne. D'abord, il a tout à fait repris cette théorie des pré-passions et il a appelé ça, c'est ce qu'on appelle et qui est très connu, les premiers mouvements de la chair. Ça doit vous dire quelque chose, voilà, c'est un vocabulaire chrétien assez connu, les premiers mouvements de la chair. Sauf que ça n'a pas du tout le même sens chez les chrétiens que chez les stoïciens. D'abord, un petit point exégétique, disons. Il y a un passage de la Cité de Dieu où Augustin reprend mot à mot l'analyse que fait un stoïcien de cette distinction entre les pré-passions et les passions. Dans ce passage, c'est un sage stoïcien qui se trouve sur un navire. La mer se démonte, il y a un orage. Le stoïcien pâlit. Voilà, il retrouve sa contenance après un moment qui lui fait penser que c'est pas si grave, que même il perdrait sa vie, c'est pas si grave non plus. Enfin voilà. Mais il y a un passager qui l'asticote un petit peu et qui lui dit « Haha, t'es stoïcien, mais finalement t'es comme tout le monde, t'as eu peur, voilà, zut zut, t'as eu peur, et moi pas d'ailleurs ». Alors, le stoïcien commence par dire « Mais c'est normal que t'aies pas eu peur, ta vie ne vaut rien, tandis que la mienne, il est normal que j'aie crève. » Enfin bref, ils s'asticotent un peu mutuellement, disons. Et puis, il y a un petit stoïcien potentiel, un petit disciple qui questionne le sage stoïcien. Et le sage stoïcien lui explique qu'il n'a pas eu peur, c'est pas vesqueré, qu'il a simplement pâli, pas lesqueré. Donc il fait une distinction entre pâlir et avoir peur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, Augustin, il reprend le même passage, sauf que palesqueré, la distinction entre palesqueré et pavesqueré, donc entre les pré-passions, les premiers mouvements de la passion, et la passion elle-même, tombe. Et voilà, ça pouvait, hein, phonétique, enfin, c'était juste une lettre quoi, qui faisait la différence entre les deux. Alors ce que dit Augustin, finalement, c'est... Eh bien, le stoïcien, il est comme tous les autres, c'est-à-dire il a eu peur. Il a même eu peur au point de trembler. C'est-à-dire que il y a plus pré-passion et passion, c'est que quand on tremble, c'est qu'on est pris par une passion terrible, en fait, complètement débordante. C'est ça la conception que Augustin a de la passion. Finalement, la seule chose qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est presque refuser de subir ce qu'on subit quand même, c'est-à-dire avoir une partie de soi qui dit « Ah, j'aimerais bien ne pas avoir peur, mais je ne peux pas ». Et c'est l'analyse que fait Augustin, c'est-à-dire il a une analyse un peu platonicienne, c'est comme si on était divisé entre une partie émue, là on est dedans, on a peur, on a les chocottes, Et puis une partie rationnelle qui dit oui mais non, tracasse, c'est pas si grave. Mais néanmoins, on a quand même éprouvé cette peur. Alors que pour les stoïciens, c'est pas comme ça que s'analyse la même situation. C'est de se dire on est un, il n'y a pas deux parties, il n'y a pas une partie qui est émue et l'autre partie qui dit oui mais non, on n'est pas divisé. On juge, on ne cesse de juger. La seule chose qui compte, c'est de savoir comment évolue le jugement. On a un premier jugement, mais on a la possibilité de ne pas y assentir. Et c'est ça, et on est tout un là-dedans. On est tout un dans le premier jugement, et puis tout un dans le fait de refuser d'assentir au jugement. Alors j'en tire peut-être les enseignements. Que nous sommes finalement probablement assez proches de la conception chrétienne de la passion, c'est-à-dire que nous avons probablement intuitivement tendance à considérer que nous sommes émus si nous pleurons, que nous avons peur si nous tremblons, et je dirais même que les développements de la science contemporaine montrent à quel point nous sommes dans ce paradigme-là. C'est que, d'abord, on a tendance à identifier l'émotion à ses manifestations physiologiques, même à considérer que un taux de cortisone ne peut pas mentir, que la température du corps humain ne peut pas mentir, et que nous avons donc là une façon extrêmement sûre du point de vue scientifique pour étudier les émotions. Ce que les gens vont dire de leurs propres émotions est peut-être mensonger, peut-être voilà, ils s'illusionnent probablement, mais les symptômes physiologiques, voilà la réalité de l'émotion. Donc c'est comme ça c'est le développement de la science contemporaine, c'est d'identifier les réactions physiologiques à l'émotion. On est voilà dans la théorie tout à fait chrétienne des émotions. Alors, on a un auteur qui a essayé de faire un pas de côté par rapport à cette théorie-là, qui a essayé de dire, attention, les scientifiques, vous avez une hypothèse sur la nature de l'émotion que vous ne questionnez même pas, c'est-à-dire que vous liez l'émotion au corps. Et c'est une hypothèse philosophique, donc vous ne pouvez pas partir de cette hypothèse sans d'abord concevoir qu'il y en a d'autres. Et qu'il est possible de concevoir que, comme les stoïciens, l'émotion est un jugement. Donc c'est un processus mental, et ce n'est pas nécessairement un processus physique. Voilà, c'est des hypothèses distinctes. Cet auteur, c'est William James. Donc William James, d'abord, il voulait renverser les processus de causalité, c'est-à-dire dire, on pense habituellement que c'est parce qu'on pleure qu'on est triste. Eh bien, pensons plutôt l'inverse, tiens. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est... non. Attendez. On pense habituellement que c'est parce qu'on est triste qu'on pleure. Voilà, c'est ça qu'on pense classiquement. On est triste, donc on pleure. Autrement dit, quand on pleure, on est sûr qu'on est triste. Lui, il pense plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vais... que c'est parce qu'on pleure qu'on est triste. Donc il y a d'abord les larmes et puis le fait qu'on leur donne un crédit... et que du coup, on est effectivement triste. Mais ça veut dire aussi que ça redonne une liberté potentielle. Et qu'on sent peut-être, d'ailleurs, il y a des auteurs qui s'engouffrent, comme Vinciane Després, peut-être que vous connaissez, elle a fait une thèse sur les théories des émotions. Et dans sa thèse, elle invite justement à réévaluer ces liens qu'on peut faire un peu intuitivement, comme ça, entre le corps, le jugement ou l'âme, et l'émotion. En disant, mais prenez l'exemple du vin, c'est-à-dire, effectivement, on pourrait, comme les scientifiques, dire un certain niveau de dilatation correspond à un certain état émotionnel, point. Sauf que, précisément, on peut jouer avec le vin qu'on va prendre pour être dans un certain état physique qui va nous permettre, en retour, d'exprimer un certain nombre de choses qu'on a envie d'être en état physique d'exprimer, et que donc les corrélations qu'on peut faire, les liens de cause à conséquence, sont beaucoup plus complexes que ce que la théorie un peu banale et non pensée des scientifiques nous invite à faire. Voilà. Désolée de vous avoir presque coupé la parole, je crois qu'il il reste un quart d'heure, donc je vous la cède. Ah non, il reste 20 minutes, voilà. Ah non, 10 minutes, je ne sais même plus. 10 minutes, il reste 10 minutes.
10 minutes pour ta conférence, si tu veux, avant
les questions. Ah non, c'est bon, j'ai tracé. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire, donc je vous laisse la parole.
A montré combien, aussi bien dans l'Antiquité que, à mon avis, en tout cas en partie au Moyen-Âge et dans l'époque chrétienne, il y avait de distance par rapport à nos conceptions aujourd'hui, au niveau des passions en général et de la passion de manger, qui est quelque chose qui est généralement fort bien vu en général, que ce soit les passions ou la passion de manger. On vient d'une culture où c'était quelque chose d'extrêmement problématique et contre lequel il fallait lutter. Voilà, je vous cède tout de suite la parole pour des questions, des commentaires, des réactions quelconques. L'avantage de cette conférence par rapport aux autres du cycle de la gastronomie, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus faim aux prochaines séances quand on aura parlé de la nourriture de manière extrêmement positive et alléchante.
Oui, voilà, mon rôle était un rôle moral. J'essayais en début de cycle d'apaiser un peu les passions futures, que vous, voilà, vous ayez un petit sous-sol.
Parce que... si j'ai bien compris, vous me contredirez si je me trompe. Il y a une idéalisation de l'objet dans une sorte de passion, dans toute passion. Bon, alors, est-ce que pratiquement, au point de vue psychologique, est-il possible de vivre deux passions en même temps? Selon vous. Voilà,
merci. En fait, il faut traduire ça en jugement. Peut-on juger en même temps de plusieurs choses? Voilà, je ne sais pas si vous avez des exemples de situations où vous porteriez simultanément un jugement. Je crois que oui, hein, oui, c'est tout à fait
peut-on
imaginable.
Peut-on, par exemple, être passionné de les mathématiques et pour le sport? On peut se moquer un petit peu, alors c'est pour ça que je vous pose cette question.
Mais en fait, quand vous parlez comme ça, vous dites passionné de sport et passionné de mathématiques, ça ne veut pas dire... qu'en ce moment, vous êtes passionné. Les stoïciens, c'est vraiment une sorte de microscopie, c'est-à-dire que vous n'êtes passionné qu'au moment même où vous éprouvez une émotion qui est plaisir, peine, crainte ou espoir. Quand vous éprouvez ces passions-là, l'intérêt, c'est de se reporter sur le jugement que vous portez sur un événement ou sur un objet, qui suscite ces passions-là. Voilà. C'est plus petit, quoi. Qu'est-ce qu'on juge concrètement? Quelle est la coloration émotionnelle qu'on ajoute à telle ou telle chose qui nous fait plaisir ou qui nous rend triste ou... Et le truc qui est très compliqué pour nous et qui fait vraiment un pas d'écart, c'est que vous avez naturellement tendance à penser que votre passion pour le sport, ben, vous rend heureux puisque ça vous fait plaisir. Alors évidemment, chez les stoïciens, c'est pas le cas, c'est-à-dire que ça reste une passion dangereuse, le plaisir. Donc quelque chose, il faut se méfier du plaisir parce que c'est toujours susceptible de vous emmener au-delà de vous-même. C'est ça, l'image de la passion, c'est le coureur qui est entraîné dans sa course, et le plaisir est typiquement une émotion qui est capable de vous entraîner bien au-delà de ce que vous souhaitez. Or, l'espèce de modèle d'humanité, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise vraiment complète de soi-même. Stoïcienne, voilà, effectivement. Il est peu probable que quelqu'un soit stoïcien ici, je dirais même, très peu probable. C'est ce que je commençais par dire au début, c'est que... Voilà. Ce n'est plus du tout au goût du jour, effectivement. Mais c'est précisément, C'est pour vous dire, mais c'est une organisation du monde aussi, et je vous invite à visiter un peu une autre organisation du monde pour rendre moins naturelle la nôtre. Ça ne va pas de soi, en fait, que ce soit si bien que ça d'être passionné. Je ne veux pas non plus ruiner vos passions. Hein. Sortez paisiblement de cette conférence.
D'autres questions ?
Bon, vous avez parlé dans la doctrine des stoïciens de l'orexis et de l'épithumia. Hein.
Oui.
Bon, mais alors bon, l'un règle gère le nécessaire dont on a besoin et l'autre, il s'agit de la gourmandise. Je me demandais ce que vous faisiez dans les cas où il y a une souffrance profonde, par exemple le pathos, donc c'est la souffrance, la passion. Donc lorsqu'il s'agit, par exemple, de personnes qui sont boulimiques et qui se jettent sur la nourriture dans un état de stress où il n'y a pas manifestement de gourmandise, mais qui est simplement une réponse à une souffrance profonde.
C'est drôle parce que c'est vraiment une analyse très contemporaine de la boulimie. C'est-à-dire que si, ça, c'est une des choses qui pouvait m'intéresser mais que je n'ai pas fait, donc je ne vais pas pouvoir répondre vraiment à votre question. Mais la possibilité de répondre à cette question-là, c'est de considérer la gourmandise et de considérer l'histoire des conceptions de la gourmandise. Parce qu'en fait, anorexie et boulimie sont des maladies très très contemporaines. Il faut la psychiatrie, donc il faut le 19e siècle pour que tout à coup ça devienne une pathologie. Jusqu'alors, on est dans la morale qui sanctionne la gourmandise. Et donc, on n'a pas du tout cette forme. Ce que vous dites est tributaire de la naissance de la psychiatrie. On ne peut pas penser ce que vous pensez avant la psychiatrie. Ce n'est pas une pathologie avec une souffrance. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de cas, c'est de me dire, mais dans le fond, à quel point est-ce que la psychiatrisation d'un comportement génère ce comportement davantage ? Je prends un exemple un peu différent qui est l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est une pathologie psychiatrique récente, elle a plus ou moins une vingtaine d'années. Il y a des millions de cas diagnostiqués. Il y a des monceaux d'argent qui sont aussi en jeu. Je crois que c'est la Ritaline ou quelque chose comme ça, qui est une molécule qu'on prescrit, mais l'industrie pharmaceutique a tout intérêt à la psychiatrisation de cette forme de pathologie. Donc voilà, j'aurais plutôt une réponse qui ne naturalise pas la sensation de douleur, mais qui la rapporte à une histoire, c'est-à-dire ce dont on souffre n'est pas naturel, il est pris dans l'histoire. On ne souffre pas de la même chose aujourd'hui qu'on... simplement, et je trouve que c'est presque une lecture stoïcienne, si on veut, des choses. C'est-à-dire que la souffrance, c'est quand même un certain jugement d'une réalité. Si vous souffrez, c'est aussi que vous jugez d'une certaine façon une même réalité, potentiellement. Ou peut-être même pas une même réalité. Peut-être que la réalité du boulimique ou de l'anorexique est tellement mentale, justement, qu'elle dépend absolument d'un jugement, et que ce jugement, il est absolument historique. Enfin, voilà, je fais des...
Oui. Non, ce que je voulais vous demander, c'est la chose suivante. Est-ce que votre analyse de la passion au travers de saint Augustin correspond à la morale chrétienne telle que les premiers chrétiens l'ont enseignée? C'est-à-dire que les premiers chrétiens, c'était le contrôle des passions. Les passions ne devaient pas exister. Pourquoi? Parce que c'est en contrôlant les passions, deux choses, qu'on contrôlait le monde et d'autre part qu'on se rapprochait de Dieu. Alors je ne sais pas si saint Augustin est dans la ligne en fait de cela. C'est ça la question que je voulais vous poser.
Oui, mais j'ai l'impression que ce débat s'est joué sur le débat sur le pélagianisme. C'est-à-dire que la discussion c'était presque... sur la théorie stoïcienne et sur un certain rapport à la liberté, qui était soit plus proche du stoïcisme et qui considérait que la maîtrise de soi était le chemin, était possible d'abord, et était le chemin normal de la morale. Et il y avait effectivement une faction stoïcienne extrêmement forte dans l'Église chrétienne qui se plaçait dans la lignée du stoïcisme. Alors, Augustin a été un des premiers à combattre, justement, un des premiers à considérer que la maîtrise de soi n'était pas un objectif réalisable et qu'elle était même peut-être une faute d'orgueil. On voit ça assez bien dans les confessions, vraiment le moment où viser la maîtrise est au contraire, enfin ce n'est plus du tout le chemin de la morale, mais au contraire le chemin du vice. Une des formes, et peut-être la forme la plus radicale du vice. Donc c'est comme ça qu'il y a des basculements qui peuvent se produire sur une morale qui est initialement plutôt stoïcienne d'inspiration, qui continue d'ailleurs à l'être dans les monastères, parce que chez Cassien, par exemple, qui est celui qui a rédigé une règle monastique qui a eu un très grand succès, Cassien est stoïcien profondément, donc il reste tout à fait lié à cette conception de la vie morale. Donc je dirais que c'est pas tout d'une pièce, qu'il y a vraiment comme des tensions entre le stoïcisme qui continue à inspirer la vie monastique et la spiritualité augustinienne qui est profondément, viscéralement opposée, je dirais, voilà.
D'autres questions ou interventions ?
Je peux compléter juste en disant que Pélage, c'est la question de la grâce divine. Et que si on veut donner une place fondamentale à la grâce divine, il faut reconnaître que ce n'est pas par soi-même qu'on se sauve, mais que la seule chose qu'on peut faire, c'est s'en remettre absolument à Dieu, que le cheminement est donc de s'abandonner, de renoncer à soi-même, et qu'on n'est absolument pas dans la maîtrise de soi, au contraire, dans l'abandon, dans le renoncement à soi. C'est ça la question du pélagianisme, c'est la place de la grâce divine dans le salut. Voilà.
Saül, par exemple, a vis-à-vis des passions une position très sévère, dirais-je, puisque pour lui, bon, si on considère le mariage, si on considère ces choses-là, il a des vues assez précises en disant, bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, donc si vous êtes passionné, si vous ne pouvez pas faire autrement, mariez-vous. Il n'interdit pas, il dit, si vous ne pouvez pas faire autrement, faites-le. Mais d'un autre côté, si vous le faites, vous vous éloignez de Dieu. C'était un peu la façon dont Saül présentait les choses. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si en fait Saint Augustin était dans la ligne de la morale chrétienne concernant les passions.
Dans la lignée d'un ascétisme, en tout cas, oui. Ça, on n'en sort pas. D'ailleurs, je pense que on ferait pour être une sorte de source d'inspiration, parce que c'est quelque chose qui critique assez fortement. C'est une tradition chrétienne, idéaliste, ascétique, qui par exemple condamne par-dessus tout les passions, la gastronomie comme une source potentielle de vice, et que c'est seulement, et effectivement là on vient d'y aller faire un petit tour quoi, du côté de l'ascétisme qui condamne le plaisir. Ouais.
D'autres interventions ? Dans ce cas, je remercie encore Gaël Jean-Marc. Je vous annonce que dès les prochaines fois, nous allons sauter à pieds joints dans le vice, aussi bien au niveau de la gastronomie où nous entendrons parler de la cuisine dans le monde romain antique, qu'au niveau des passions, où je vous parlerai des passions chez Descartes, où on a là aussi pour une première fois vraiment une valorisation de la notion de passion. Et alors, dans un cas, donc la cuisine dans le monde romain antique, ce sera le 20 octobre. Moi, je vous parlerai des passions chez Descartes le 17 novembre. Et la semaine prochaine, c'est Pierre Catelin qui va venir nous introduire à la préhistoire en nous faisant un tableau général des périodes et des méthodes utilisées dans la préhistoire. Voilà, je vous remercie pour votre présence et votre attention. Et je remercie Gaëlle.